Le marathon des mots présente, les nuits d'été, Thomas Flaho, la combe, la nuit. Fer brûlé et plastique fondu. La première impression après avoir passé les portes de l'atelier, c'est l'odeur. Odeur, bruit, couleur. Les opérateurs portent un polo gris identique à celui qu'on a donné à Thomas ce soir lors de son bref passage aux ressources humaines. Le gris désigne sa fonction « opérateur ». Une fonction pour lui encore aussi indécise que l'est la couleur grise. L'homme qui marche devant lui s'appelle Romuald, son polo est rouge, la couleur du chef d'atelier, la couleur du pouvoir. C'est ta ligne de production, ça. C'est l'atelier C. L'atelier C est moins une ligne qu'un damier. Des îlots de machines toutes identiques reliés entre eux par des allées. L'atelier C ne correspond pas à l'idée que Thomas en était fait. Il s'était figuré une suite de postes placés le long d'une chaîne se déroulant sous le haut plafond d'un hangar. Une alternance de mouvements et d'arrêts, le fracas des tôles frappées. Mais cette usine-là a disparu depuis longtemps. Elle appartient à la vieille époque des syndicats et des grèves générales, celle de Chaplin. Thomas se penche sur la première machine que Romuald lui présente. Si elle existe, cette usine de films et de romans, c'est à l'intérieur des machines. Des centaines de pièces filent sur des courroies, des bras mécaniques les emboîtent, les soudent, à une vitesse qui empêche de saisir l'ordre et la nature de ces opérations. La machine vit toute seule. Elle s'appelle Miranda, comme presque toutes les autres. Et tout en parlant, Romuald se dirige vers une autre unité. Un écran digital devant lequel Mehdi s'active. Prenant à peine le temps d'un coup d'œil crispé en direction de Thomas, un coup d'œil sans affect qui le gêne. Chez la combe, la nuit, Mehdi est un autre homme qu'aux Verrières, le quartier de leur enfance. Soumis au rythme que lui imposent les machines, il est absent, il est tendu. C'est à ça que ressemble un homme au travail. Thomas n'en avait encore jamais vu. Il avait souvent imaginé son père dans cette usine mettant toutes ses forces tout au long de la nuit pour suivre la cadence de la chaîne. Mais la surprise de ne pas trouver chez Lacombe ce décor mythique ne l'empêche pas de voir que si la chaîne d'assemblage s'est métamorphosée, sa cadence, qui propulsait Charlot dans des rouages monstrueux, elle, n'a pas disparu. Peut-être est-elle plus sournoise encore.
Quelques heures plus tôt, Mehdi pénétrait dans la vallée. Après la scierie derrière le tas de troncs qu'humidifie la perpétuelle brume de l'arrosage automatique, derrière les silhouettes immobiles des rumiers, elle apparaît. À l'heure de l'embauche, l'usine Lacombe brille à l'entrée du village de Lacombe. Un cube doré entouré par des forêts de sapins dont la noirceur a déjà à cette heure la profondeur d'une nuit sans lune. Le jour est encore là, pourtant pour quelques minutes. Il meurt. Les 8 heures passées dans l'atelier ne portent jamais aussi bien le nom de travail de nuit qu'au début de juillet. Durant la première semaine de la saison d'été, le début et la fin de la nuit circonscrivent le temps sur la chaîne. Le soleil est encore haut lorsque Mehdi quitte à moto les Verrières. Il se décroche du ciel au passage de la frontière suisse, glisse vers les cimes tout au long du trajet et disparaît derrière le Jura à l'instant où Mehdi passe son badge dans la pointeuse. Il tourne le dos à l'heure bleue, dont le calme et la clarté l'accompagnent dans le vestiaire, dans l'atelier, face à Miranda, au milieu des autres. C'est le premier soir de son 7e été chez Lacombe. Chaque saison, le parking se clairsème. Autrefois, plein de motos à la tombée de la nuit, il est maintenant à cette heure presque désert, comme le sont la cour, l'escalier, le vestiaire, l'atelier. Autour des 5 machines en marche, 4 Miranda et une fraiseuse, se tient une foule de machines endormies. Ils étaient une 20aine d'opérateurs frontaliers l'été dernier. Ils ne sont plus que 6. Mais Mehdi n'a pas le temps de s'étonner qu'ils soient si peu nombreux dans le grand atelier. Pas le temps d'en demander la raison à Romuald. La Miranda, qu'il sait être la sienne pour l'avoir soignée durant tant d'été, gueule déjà. Son ventre est vide. son alarme stridente, même après un automne, un hiver et un printemps loin d'elle. Il ne peut pas l'oublier. Le rythme de l'usine le hameçonne. Ainsi commence la nuit. Ainsi commence l'été. Mehdi se frotte les mains. Allez. Le calme de l'heure bleue finit par se dissiper. Devoir gérer deux machines au lieu d'une pour que Romuald présente l'atelier à Thomas assombrit l'humeur de Mehdi. Les deux Miranda forment un monstre à deux têtes. Mehdi, montre-lui. Il ne peut pas montrer, non. Il nourrit deux bêtes affamées. Lorsqu'une panne est résolue sur l'une, que son gyrophare passe du rouge au vert, l'autre vire du vert au rouge. Les alarmes se répondent, cyniques. Les machines se moquent de lui et Thomas le regarde maintenant, cherche à attirer son attention. Mehdi soupire, s'éponge le front. C'est une panne commune, error vacuum. Les lettres clignotent sur le panneau digital, menu, parameters, reset. Le bras mécanique s'affaisse soudain dans un soupir et la pièce vrillée tombe sur le plancher de l'unité. Le moteur électrique produit une note montant du grave à l'aigu. Miranda repart. L'autre machine a l'air de fonctionner. Il a peut-être le temps de montrer à Thomas comment recharger le réservoir de châssis. Il contourne Miranda et s'approche de Thomas qui ne bouge pas, les yeux plongés dans la machine. On dirait qu'il dort debout et Mehdi hésite entre l'embrasser et le frapper. Il se contente d'une petite tape sur la joue. Énervé, Thomas balaie sa main d'un revers. « À ce qui paraît, je suis ton prof. » Mehdi entame la première leçon de sa vie. Après cet été, ses mains exécutent, sans qu'il ait à les guider, une chorégraphie précise. Il se concentre, s'efforce de décomposer des gestes qui sont devenus réflexes. Il décapuchonne d'un coup de canif le stick de châssis et, bouchant l'ouverture du tube avec le plat de la lame, le retourne. Puis il place le stick à l'entrée du réservoir. Furtivement, il ôte la lame. Les châssis glissent ensemble jusqu'au fond du rail, sans se désolidariser les uns des autres, sans se coincer. Il aime ce geste-là. Les châssis semblent alors dotés d'une conscience, obéir à sa volonté. Ils n'obéissent pas à la volonté de Thomas. Ses gestes sont maladroits, trop rapides, trop brusques. Les châssis s'échappent du stick et pleuvent sur le sol. T'inquiète pas, ça viendra. Ça ne vient pas vraiment. Au matin, après une nuit à regarder les pièces tomber par terre, il se retrouve à bon cours. Tous les matins d'été, depuis toujours, a-t-il l'impression. Mehdi s'arrête ici, juste avant la frontière. Seul, regardant le jour à peine levé sur les champs de colza, il a pris l'habitude de déposer là toute la fatigue de l'usine avant de poursuivre sa route vers la France. Le décor a bien changé depuis l'an dernier. Les champs ont été remplacés par la nouvelle usine Lacombe. Construite en quelques mois. Mehdi ne l'a découverte que la veille. C'est le moment de transmettre son rituel à Thomas. Assis sur une butte, longeant la voie rapide, il sort de son sac une flasque de whisky et la lui tend. Thomas boit une longue gorgée en grimaçant et s'allonge. Il lui faut au moins ça. Mehdi aurait aimé qu'après sa première nuit d'usine, quelqu'un le fasse boire. Son sommeil aurait été plus doux. L'alcool aurait peut-être étouffé le bruit de l'atelier qui a dès lors peuplé ses rêves. Thomas connaîtra dans quelques heures le même sommeil. C'est ainsi que l'usine s'apprend, comme une langue étrangère. Mais il ne parle pas de tout ça à Thomas. Il se tait et ensemble, ils goûtent le silence espéré du matin, contemplent la nouvelle usine en contrebas, derrière les stores qui couvrent ses parois vitrées, des lumières identiques à celles de l'atelier C, se devinent. Les lumières du travail. D'autres opérateurs commencent leur journée.
Ce soir, Nicolas rejoint Mehdi à Boncourt. Il a fait un grand détour pour transformer avec lui l'autoroute en piste de course. Il a un mot pour ça, rodéo. Cela consiste surtout à narguer Mehdi. De subites accélérations pour disparaître loin devant dans un tunnel qui réverbère le rugissement de sa Ducati en une mitraille d'échos. permettre à Mehdi de le rejoindre à la sortie pour le semer de nouveau. Près de Delémont, après avoir franchi le tunnel creusé sous le mont Terry, Nicolas roule sur la voie de sécurité. Le vent s'engouffre dans son débardeur orange, le tissu ondule autour de ses épaules corolles de fleurs couronnant des bras tiges. Voyant sans doute dans son rétroviseur la Kawasaki verte de Mehdi, il tourne la tête dans sa direction, hoche légèrement son casque noir coiffé d'une caméra GoPro et repart en trombe. Mehdi rit, Mehdi frissonne. Cette fois, c'est à son tour de semer Nicolas. Il se met dans sa roue, il le rattrape, il le colle, et lorsqu'il le dépasse, les quelques kilomètres par heure qui séparent sa vitesse de celle de Nicolas lui donnent la sensation de le doubler au pas, mais l'aiguille s'incline vers la droite. 150, laborieusement, la Kawasaki s'engage dans un bras de fer entre la gravité, la densité de l'air et ses propres chevaux. 165, le cœur remonte et les viscères enlacent la colonne vertébrale. Mehdi courbe le dos. Mehdi baisse la tête près du guidon. 172, le vent bat le casque, écrasant même le bruit du moteur. Les voitures défilent. Plus vite, leur lenteur cède la peur. 180, l'inclinaison de la moto vers la gauche procure le sentiment d'un équilibre précaire, maintenu par la seule vitesse. 186, l'esprit est vide, comme l'espace dans lequel Mehdi file et il n'est plus Mehdi, il n'est plus un homme fragile, porté par le monstre mécanique qu'il chevauche, non, il est pure vitesse, il est pur mouvement, rectiligne d'un atome, filant dans l'obscurité d'un vide soudain illuminé par le flash d'un radar. Les mains freinent par réflexe. Elles manquent d'envoyer en l'air tout le corps. La glissière surgit là, tout près du genou. Mehdi se ressaisit, ralentit, la chimie de son cerveau change brutalement, le faisant passer de l'exaltation à la terreur. Il a l'impression d'être mort et se rassure en sentant le vent battre le cuir de sa veste en contemplant le paysage bleu dans lequel s'infiltre le rose du couchant. De retour au noir d'un tunnel, Mehdi reste dans la file de voitures dont la lenteur lui semble être une protection. Quand Nicolas le dépasse encore dans son bruit de mitraillette, il ravale sa salive. Et le tunnel dure. Il n'en finit pas, calme succession des néons courbes qui creusent le ventre de la montagne. Roulé dans la file, s'est roulé à la vitesse imposée par d'autres qui suivent le colt de la route. Rouler dans la file, ce n'est plus rouler mais circuler, séparé des autres corps par une distance réglementaire, comme des pièces, sur la grande chaîne de cette immense usine qu'est le monde.
Le rez-de-chaussée de l'usine est un large espace vide. Thomas n'y est jamais descendu. Pourtant, il n'a pas besoin de carte pour trouver son chemin. Sur le sol court une ligne jaune et phosphorescente qui indique la voie à suivre, depuis l'atelier C jusqu'aux entrepôts. Il suffit de serpenter avec elle, entre des machines aujourd'hui disparues, jusqu'à ce qu'elle s'interrompe devant une porte de fer aussi noire que la nuit. Ouverte, celle-ci débouche sur la cour intérieure, et tout au bout, dans la lumière ambrée qui provient du hangar, se dessine la silhouette d'un homme immobile dans un brouillard de tabac. À la démarche indolente de cette ombre, Thomas reconnaît Mehdi. Il ne semble pas pressé de rattraper sa demi-heure de retard. « Qu'est-ce que tu fais là ?»«
Je me suis arrêté, faut pas s'arrêter. Quand tu t'arrêtes sur la route, t'as envie de faire demi-tour. »
Le chef est furieux. Mehdi monte sur la transpalette, s'assoit sur la pile de plateau que Thomas transporte. Une demi-heure de retard, ça doit être un crime au pays des horloges. Mehdi sourit à Thomas, un sourire devenu rare. Le chef, il peut aller se faire foutre, c'est ce qu'il lui dira. Remontant à l'atelier, ce qui devait arriver arrive. Rouge est le polo, rouge est le visage de Romuald. Mais la bouche de Mehdi reste muette, ses yeux baissés. Romuald lui répète, hystérique, que cette fois c'est la dernière ou... Et Mehdi ne dit rien. Il passe sa langue à l'intérieur de ses lèvres, comme il le faisait lorsque, enfant ou adolescent, il se préparait à décocher un crochet du droit au visage de quelqu'un qui avait trop parlé. Thomas s'en souvient. Alors que Mehdi se dirige vers sa machine, Thomas s'approche de lui et lui murmure. « Quel fils de pute ?» Mehdi hausse les épaules. « C'est juste un chef ?» Il retrouve sa Miranda et laisse Thomas à la sienne. Le cours de la nuit peut reprendre dans son silence coutumier, un silence habité par le seul bruit des machines. La bête digère. Dans son estomac, des sucs et des enzymes font leur travail. La nuit devient une longue et unique phrase formée de verbes qui ne se conjuguent qu'à l'infinitif. Charger, surveiller, contrôler, attendre, enfiler, plier, rompre, ouvrir, fermer, attendre, décapsuler, enfiler, renverser, ramasser, vider, remplir, interrompre, relancer, attendre, décharger, vérifier, déposer, envelopper, pousser, descendre, traverser, actionner, charger, sortir, monter, charger, surveiller, contrôler, attendre. Jusqu'à la pause de 1h du matin. Manger le contenu de sa gamelle en regardant les autres manger le contenu de leur gamelle. Profiter du silence jusqu'à ce qu'un opérateur ouvre la bouche. Et ce soir, le premier à parler, c'est Romuald. J'ai un truc à vous dire. Les opérateurs n'écoutent pas Romuald. Ils écoutent le son âpre que déverse l'ordinateur de Nicolas dans la nuit silencieuse, ses paroles de circonstance. On dit que la nuit porte conseil. La nuit nique sa mère. Mehdi sourit, sans doute content de venger ainsi l'humiliation de tout à l'heure. Ils vont déménager l'atelier cet été. Je sais pas quand ils commenceront à démonter les machines. En août, je pense. Je voulais juste vous prévenir.